18h le dimanche, le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce dimanche, les suites de l'agression couteau à la préfecture de police de Paris. Alors que la radicalisation de l'agresseur ne fait plus aucun doute, le ministre de l'Intérieur est mis sur la sellette pendant que le Premier ministre annonce son intention de lancer de nouvelles procédures de détection. À suivre la mobilisation des anti-PMA pour toutes, aujourd'hui dans les rues de Paris et un peu partout en France, une mobilisation qui aura pour slogan « Liberté, égalité, paternité ». Jour de vote ce dimanche en Tunisie, au Kosovo et au Portugal, le Portugal où les socialistes sont donnés favoris des législatives. Ce dimanche, c'est aussi la journée des aidants qui auraient bien besoin eux aussi parfois d'être aidés. Dans ce journal, le témoignage de Pierre, 81 ans. À 8h10, le journal des sports présenté par Guillaume Batin. Il sera bien sûr question du France-Tonga attendu à 9h45 ce matin en Coupe du Monde de rugby. Un match décisif pour la qualification des Bleus. Et puis à 8h20, le rap à l'honneur en compagnie de votre invité Eric Delvaux.
Oui, Oxmo Puccino pour son nouvel album, le 7e en studio, La Nuit du Réveil. On parlera aussi de ses 20 ans de carrière. Rendez-vous donc à partir de 8h20.
France Inter.
Les suites de l'agression couteau à la préfecture de police de Paris, alors que l'enquête suit son cours et que le procureur antiterroriste a indiqué hier que l'agresseur, abattu par un jeune policier, s'était converti à l'islam il y a une dizaine d'années de cela, avant de se radicaliser. La polémique enfle sur le rôle et la personnalité du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, défendu par ailleurs par le Premier ministre Édouard Philippe. Cyril Graziani.
Face aux critiques de l'opposition de droite et du Rassemblement National, qui une nouvelle fois ont bondi sur l'occasion et multiplient les appels à la démission, Édouard Philippe vole au secours de Christophe Castaner et lui assure toute sa confiance. Il a fait état, explique le Premier ministre dans le JDD, de ce qu'il savait au moment où il s'est exprimé. Il est dans son rôle dans de telles circonstances. En privé, Christophe Castaner a confié lui à des proches qu'il avait un rapport écrit qui confirme qu'il n'y avait rien dans le dossier administratif de Michael Harpon, aucun signalement hiérarchique. Il n'y avait pas de signaux d'alerte, explique-t-on place Beauvau, au moment où il est intervenu. En outre, aucune hypothèse n'était écartée, renchérit la même source, contrairement à ce que la droite cherche à faire croire. La droite est en campagne sur notre dos, s'énerve un ténor de la majorité. Tout ça est une vilaine polémique politicienne. Dans l'entourage de Christophe Castaner, on se réfugie aussi derrière les syndicats de police qui ne vont pas du tout glisser dans le sens de la droite.
La droite, justement, qui par la voix du député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, réclame le départ de Christophe Castaner.
Quelle crédibilité peut encore avoir Monsieur Castaner ? Il multiplie depuis des mois les fautes, les erreurs, les propos inadaptés, trop rapides, pas vérifiés. On sent un immense amateurisme. Soit il savait, il a voulu dissimuler la vérité, c'est un scandale d'État, soit il ne savait pas et c'est de la pure incompétence. Dans les deux cas, il est discrédité. Très clairement, moi je pense qu'aujourd'hui, sa place n'est plus au ministère de l'Intérieur.
Éric Ciotti au micro de Julie Manche. Et j'ajoute que le Premier ministre, qui a donc pris la défense de Christophe Castaner, comme le disait à l'instant Cyril Graziani, Édouard Philippe, donc, annonce dans les colonnes du journal du dimanche qu'il a pris la décision de lancer deux missions pour la détection d'éventuels signes de radicalisation d'agents chargés de la lutte contre le terrorisme, dont l'une justement dans le service de renseignement de la préfecture de police de Paris. Et pour être complet, sachez qu'une cérémonie en hommage aux victimes de cette attaque aura lieu mardi prochain à 11h dans les locaux de la préfecture de police de Paris en présence d'Emmanuel Macron.
Après les manifestations contre le mariage pour tous, ce sont les anti-PMA et les anti-GPA qui vont se donner rendez-vous aujourd'hui dans les rues de Paris.
Intitulé « Marchons enfants », le rassemblement de tous ceux qui s'opposent à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes ainsi qu'à la gestation pour autrui, actuellement discutée à l'Assemblée nationale, commencera notamment à 13h dans le 6e arrondissement de Paris. Certains manifestants comme Agnès Derieux, la présidente de l'association familiale catholique de Sens dans l'Yonne, ne vont pas hésiter à faire le déplacement. Agnès Derieux, jointe au téléphone par Soizic Pelet de France Bleu Auxerre.
Je manifeste parce que je voudrais que nos hommes politiques réfléchissent en conscience aux droits de l'enfant. Il y a eu le PACS, et après le PACS, on nous a dit « Oh non, jamais il y a le PACS, mais jamais il y aura le mariage. » Bon, on a changé de majorité, bing, le mariage pour tous. Et on le savait que dans la loi et en utilisant le mot « mariage » et non pas « union civile », ça a entraîné ipso facto la notion d'enfant. Ce qui nous dérange dans tout ça, c'est le côté biologique. Toute personne normalement constituée sait que pour naître, il faut un ovule et un spermatozoïde. Voilà, ça ne va plus être le cas. puisque un enfant va avoir, après passage notaire et filiation, deux mères. L'identité du père est définitivement gommée.
Rendez-vous à 13h donc près du Sénat à Paris pour ces manifestants qui prendront ensuite la direction de Montparnasse. Toutefois, selon les observateurs politiques, ce rassemblement ne devrait pas être comparable à la démonstration de force de 2013 contre le mariage homosexuel.
C'est un jour de vote aujourd'hui au Portugal.
Oui, il s'agit d'élections législatives pour lesquelles, une fois n'est pas coutume en ce moment en Europe, ce sont les socialistes menés par le Premier ministre António Costa qui sont donnés grands favoris de ce scrutin. Lisbonne, Isabelle Labéry.
Porté par la reprise économique, António Costa a pu revaloriser les salaires et les retraites, faire baisser le chômage et redresser les finances publiques. Le paradis après la descente aux enfers. Elena Teixeira est journaliste au quotidien Diario de Noticias.
Je pense que c'est surtout cette idée de l'austérité, c'est fini. Avec moi, on peut revenir à la croissance. Laissez-moi continuer. Mon bilan est positif, mais il peut être encore plus positif. C'est surtout ce message-là qu'il essaye de transmettre.
Derrière ses rondeurs et son air affable, António Costa s'est surtout révélé excellent tacticien. Et comme il l'avait déjà fait à la mairie de Lisbonne, il a laissé ses partenaires d'extrême gauche jouer leur rôle d'opposant, sauf sur les dossiers essentiels, comme le budget. Question de stabilité, António Costa Pinto est professeur de sciences politiques à l'Université de Lisbonne.
Il a souligné pendant la campagne électorale, et ça c'est important, on veut éviter une sélection à l'espagnole. Ça veut dire la crise en permanence, avec des élections anticipées, etc. Et les choses ont bien marché. Les communistes et le bloc de gauche n'ont pas imposé des conditions impossibles au Parti socialiste.
Avec ou sans majorité absolue, António Costa aura 4 années supplémentaires pour consolider le miracle portugais. Lisbonne, Isabelle Labéry, France Inter.
Élections législatives également aujourd'hui en Tunisie ainsi qu'au Kosovo.
Ce dimanche est aussi une journée nationale des aidants.
Oui, des aidants qui seraient plus de 11 millions en France et qui, pour certains d'entre eux, auraient bien besoin justement eux aussi d'être aidés. Je vous propose d'écouter le témoignage de Pierre. Cela fait 2 ans maintenant qu'il s'occupe seul de son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer.
Je suis tout seul pour m'en occuper, les enfants sont loin d'ici, donc je peux pas trop compter sur eux. Et donc je me débrouille tout seul. Je fais toutes les courses, je m'occupe de toute la maison, puis je m'occupe de ma femme pour toutes les sorties, que ce soit chez le médecin ou aux activités qu'on a avec France Alzheimer notamment. Donc je l'accompagne, donc je passe tout mon temps, pratiquement tout mon temps. Ça. Mon gros problème, c'est que je n'arrive plus à trouver un moment pour moi, pour être tout seul. Quoi.
Pierre, 81 ans, un témoignage recueilli par Philippe Tourne de France Bleu Bourgogne. Pas de temps disponible donc pour ces aidants, pas le temps de s'occuper d'eux-mêmes. Des aidants qui, selon les statistiques, seraient que 50% à mourir avant les être aidés. Retour pour refermer ce journal sur la 18e édition de La Nuit Blanche, cette manifestation artistique annuelle qui s'est déroulée la nuit dernière et qui s'est notamment traduite à Paris par la transformation d'une partie du périphérique en vélodrome. Un périphérique envahi par les vélos entre la porte de Bagnolet et la porte de la Villette pour le plus grand plaisir des cyclistes parisiens. Impression recueillie par Bastien Munch.
On n'a même pas l'habitude d'y venir autrement qu'en voiture. Donc ça change tout le panorama. Puis comme c'est pas la même vitesse, on est plus observateur en vélo. On voit plus les détails. Mais c'est beaucoup mieux. Hein. En voiture, on est aveugle en fait. Hein. On regarde devant, point barre.
Il y a un côté magique, quoi. C'est ça. Quoi. La nuit aussi, ça l'amène. Mais le fait de circuler sur cette grande voie, c'est comme sur une autoroute. Quoi. Enfin, c'est agréable parce que déjà, il n'y a pas de bruit. C'est ça qui est le plus déroutant. Quoi. Mais c'est vrai qu'il faudrait refaire ça régulièrement, quoi, pourquoi pas, quoi.
Et puis, autre rendez-vous avec le 24e Festival International Toulouse-les-Orgues. Comme son nom l'indique, cela se passe en ce moment à Toulouse et jusqu'au 13 octobre. Un festival qui a notamment souhaité mettre en avant cette année les femmes actives dans le monde de l'orgue. C'est la fin de ce journal. Et sans fausse note, c'est à vous, Éric Delvaux.